Les préalables historiques sont problématiques. Il est bien évident qu'aborder la question de Jésus, ça suppose qu'on fasse un petit peu d'histoire, contrairement à ce que font les religieux ou les théologiens qui considèrent que c'est une religion révélée, le christianisme, et qu'en tant que tel, il faut accepter ses dogmes. Si on travaille en historien, il est difficile de travailler sur cette période-là, parce qu'il y a eu un nombre considérable de sacs, de vandalisme, d'actes de vandalisme, de barbarie. Il y a eu des autodafés considérables. J'ai beaucoup travaillé pour trouver ces textes dont je vous parlerai dans la prochaine séance ou la séance suivante, de textes qui disent très précisément qu'il y a eu des bibliothèques brûlées grâce au christianisme ou à cause du christianisme. Donc il faut faire avec ces catastrophes historiques et humaines. Il faut faire avec les catastrophes naturelles. Des tremblements de terre considérables à cette époque-là qui détruisent et qui engloutissent parfois des villes ou des villages, donc des bibliothèques. Il faut faire et composer également avec la fragilité des supports. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut compter avec une révolution des supports. On passe du papyrus au parchemin. Et ça n'est pas rien parce que le parchemin est fragile et avec cette invention, je dirais cette invention égyptienne, n'est pas pratique, n'est pas très utile dans un climat romain ou dans un climat grec ou dans un climat méditerranéen en dehors de l'Égypte. Ça pourrit, ça disparaît, il y a une dessiccation, enfin c'est extrêmement fragile et quand on passe à des nouvelles techniques, parchemin, fameuses peaux tannées sur lesquelles on écrit, il est bien évident qu'il y a des bibliothèques entières qui disparaissent parce que les copistes ne peuvent pas tout recopier. Donc il y a des textes essentiels, notamment les textes du gnosticisme, qui disparaissent parce que les supports ont supposé des copistes et que les copistes étaient absolument zélés à cette époque-là. Il n'y avait pas de respect, je dirais, de la vérité. L'idée de la vérité n'était pas du tout pensable dans les termes d'aujourd'hui. Il y avait une improvisation permanente chez les gens qui recopiaient ces textes-là. Donc il faut être extrêmement prudent avec les sources qui nous sont restées disponibles. Il faut faire également avec un climat particulier qu'on connaît assez mal et qui est un climat millénariste. C'est-à-dire que vous avez un nombre considérable de fous et d'allumés qui annoncent la fin du monde, une fin du monde qui, la plupart du temps, procède de leur lecture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi le christianisme est une invention juive. L'Ancien Testament fabrique le Nouveau Testament, et c'est à partir de l'Ancien qu'on fabrique le Nouveau. Il y a donc un tas d'individus qui procèdent de ces zones géographiques, que sont les zones du Jésus. On dira Jésus pour faire court, et vous voyez ce que je mets derrière ce personnage-là, ou cette notion-là. Et ces zones géographiques, elles sont extrêmement riches en individus qui sont tenants d'hypothèses prophétiques et millénaristes et qui annoncent donc les apocalypses pour demain. Mais ils annoncent ces apocalypses pour demain, mais sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des apocalypses célestes, il y a une espèce d'apocalypse céleste-terrestre qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que ces gens-là annoncent des choses qui vont avoir lieu demain sur Terre. C'est une espèce de messianisme révolutionnaire et politique. On vous annonce que ça n'est pas possible, que ça dure comme ça. Et ça va changer immanquablement. Les Romains ne pourront pas occuper éternellement cette Terre. Et il y aura un prophète qui arrivera un jour de ces terres-là, de ces déserts, et qui réalisera cette vérité annoncée dans l'Ancien Testament. Les philosophes gnostiques procèdent tous de ce courant millénariste et apocalyptique. Ce sont tous des gens qui attendent la catastrophe, qui annoncent la catastrophe et qui vivent de la catastrophe. Leur quotidien, c'est essentiellement ça. Le problème, c'est effectivement un problème de résistance politique à l'occupation romaine. Les Romains occupent le territoire assez violemment, contrairement à ce qu'on dit. On parle toujours d'une espèce de tolérance romaine quand on parle des Romains qui s'installent dans les provinces étrangères du bassin méditerranéen. C'est pas vrai, ça marche quand même avec des militaires. On est dans une logique d'occupation militaire. Et cette occupation militaire, elle suppose une réaction de gens qui sont absolument démunis. Ça doit vous faire songer à des situations politiques contemporaines, mais ces gens qui sont complètement démunis, n'ont à opposer aux gens qui ont des cohortes de militaires avec eux que des mots, que du verbe, que du millénarisme, que du divin, que du sacré, que Dieu, d'une certaine manière. On appelle Dieu pour, à la rescousse pour se sauver de ce mauvais pas politique dans lequel on se trouve. Il y a donc une espèce d'ambiance métaphysique, de crainte, de peur, d'angoisse et de tremblement, qui suppose qu'il y a un terrain absolument prêt, enfin favorable pour l'émergence d'une figure qui pourrait être une figure christique. La plupart du temps, tous ces individus qui se réclament de l'Ancien Testament et qui s'en viennent vous annoncer la bonne nouvelle, on les extermine. Les chrétiens, on ne peut pas les appeler encore comme ça à l'époque, mais les gnostiques ou les millénaristes ou les apocalyptiques sont des individus qui sont passés par le fil de l'épée. Les Romains ne rigolent pas sur ce sujet. Et il y a un nombre considérable d'individus qui annoncent des prophéties. Ils sont capables d'ouvrir des fleuves, ça doit vous dire quelque chose, mais d'ouvrir des fleuves avec des bâtons ou avec la parole pour laisser passer leur peuple. Il y a un nombre considérable d'individus qui sont capables de ça, enfin qui annoncent ce genre de choses dans l'histoire de cette époque, 1er, 2e après Jésus-Christ.